Chapitre 6. Le rayon ardent sur la route de Chobham. La façon dont les Martiens peuvent si rapidement et silencieusement donner la mort est encore un sujet d'étonnement. Certains pensent qu'ils parviennent, d'une manière quelconque, à produire une chaleur intense dans une chambre de non-conductivité pratiquement absolue. Cette chaleur intense, ils la projettent dans un rayon parallèle contre tels objets qu'ils veulent au moyen d'un miroir parabolique d'une composition inconnue, à peu près comme le miroir parabolique d'un phare projette un rayon de lumière. Mais personne n'a pu prouver ces détails d'une façon irréfutable. De quelque façon qu'ils soient produits, il est certain qu'un rayon de chaleur est l'essence de la chose, une chaleur invisible au lieu d'une lumière visible. Tout ce qui est combustible s'enflamme à son contact. Le plomb coule comme de l'eau, le fer s'amollit, le verre craque et fond, et l'eau se change immédiatement en vapeur. Cette nuit-là, sous les étoiles, près de 40 personnes gisaient autour du trou, carbonisées, défigurées, méconnaissables, et jusqu'au matin, la lande de Horsell jusqu'à Maybury resta déserte et en feu. La nouvelle du massacre parvint probablement en même temps à Chobham, à Woking et à Ottershaw. À Woking, les boutiques étaient fermées quand le tragique événement se produisit et un grand nombre de gens, boutiquiers et autres, attirés par les histoires qu'ils avaient entendues raconter, avaient traversé le pont de Horsell et s'avançaient sur la route entre les haies qui viennent aboutir à la lande. Vous pouvez vous imaginer les jeunes gens et les jeunes filles, après les travaux de la journée, prenant occasion de cette nouveauté comme de toute autre pour faire une promenade ensemble et flirter à loisir. Vous pouvez vous figurer le bourdonnement des voix au long de la route dans le crépuscule. Jusqu'alors, sans doute, peu de gens de Woking même savaient que le cylindre était ouvert, bien que le pauvre Henderson eût envoyé un messager porté à bicyclette au bureau de poste un télégramme spécial pour un journal du soir. Les curieux débouchaient par deux ou trois sur la lande et ils trouvaient de petits groupes de gens causant avec animation en observant le miroir tournant au-dessus des carrières de sable, et la même excitation gagnait rapidement les nouveaux venus. Vers 8h30, quand la députation fut détruite, il pouvait y avoir environ 300 personnes à cet endroit, sans compter ceux qui avaient quitté la route pour s'approcher plus près des Martiens. Il y avait aussi trois agents de police, dont l'un était à cheval, faisant de leur mieux, d'après les instructions de Stent, pour maintenir la foule et l'empêcher d'approcher du cylindre, non sans soulever quelques protestations de la part de ces personnes excitables et irréfléchies, pour lesquelles un rassemblement est toujours une occasion de tapage et de brutalité. Stent et Ogilvy, redoutant les possibilités d'une collision, avaient télégraphié de Horsell aux forces militaires aussitôt que les Martiens avaient paru, demandant l'aide d'une compagnie de soldats pour protéger, contre toute tentative de violence, les étranges créatures. C'est après cela qu'ils avaient fait leurs si malheureuses avances. Les descriptions de leur mort, telles que la vit la foule, s'accordent de très près avec mes propres impressions. Les trois bouffées de fumée verte, le sourd ronflement et les jets de flammes. Bien plus que moi, cette foule de gens l'échappa belle. Le seul fait qu'un monceau de sable couvert de bruyère intercepta la partie inférieure du rayon les sauva. Si l'élévation du miroir parabolique avait été de quelques mètres plus haute, aucun d'eux n'aurait survécu pour raconter l'événement. Ils virent les jets de lumière, les hommes tombés, et une main invisible pour ainsi dire, allumer les buissons en s'avançant vers eux dans l'ombre qui gagnait. Alors, avec un sifflement qui s'éleva par-dessus le ronflement venant du trou, le rayon oscilla juste au-dessus de leur tête, enflammant les cimes des hêtres qui bordaient la route, faisant éclater les briques, fracassant les carreaux, enflammant les boiseries des fenêtres et faisant s'écrouler en miettes le pignon d'une maison située au coin de la route. Dans le crépitement, le sifflement et l'éclat aveuglant des arbres en feu, la foule, frappée de terreur, sembla hésiter pendant quelques instants. Des étincelles et des brindilles commencèrent à tomber sur la route, avec des feuilles, comme des bouffées de flammes. Les chapeaux et les habits prenaient feu. Puis, de la lande, vint un appel. Il y eut des cris et des clameurs, et tout à coup l'agent de police à cheval arriva, galopant vers la foule confuse, la main sur la tête et hurlant de douleur. « Ils viennent !» cria une femme, et immédiatement chacun tourna les talons, et poussant ceux qui se trouvaient derrière, tâcha de regagner au plus vite la route de Woking. Tous s'enfuirent aussi confusément qu'un troupeau de moutons. À l'endroit où la route était plus étroite et plus obscure entre les talus, la foule s'écrasa et une lutte désespérée s'ensuivit. Tous n'échappèrent pas. Trois personnes, deux femmes et un petit garçon, furent renversées, piétinées et laissées pour mortes dans la terreur et les ténèbres. Chapitre 7. Comment je rentrai chez moi. Pour ma part, je ne me rappelle rien de ma fuite, sinon des heurts violents contre des arbres et des culbutes dans la bruyère. Tout autour de moi s'assemblait la terreur invisible des Martiens. Cette impitoyable épée ardente semblait tournoyer partout, brandie au-dessus de ma tête, avant de s'abattre et de me frapper à mort. J'arrivai sur la route entre le carrefour et Horsell, et je courus jusqu'au chemin de traverse. À la fin, il me fut impossible d'avancer. Épuisé par la violence de mes émotions et l'élan de ma course, je chancelai et m'affaissai inanimé sur le bord du chemin. C'était au coin du pont qui traverse le canal près de l'usine à gaz. Je dus rester ainsi quelque temps. Puis je m'assis, étrangement perplexe. Pendant un bon moment, je ne pus clairement me rappeler comment j'étais venu là. Ma terreur s'était détachée de moi comme un manteau. J'avais perdu mon chapeau et mon faux-col était déboutonné. Quelques instants plus tôt, il n'y avait eu pour moi que trois choses réelles. L'immensité de la nuit, de l'espace et de la nature, ma propre faiblesse et mon angoisse, l'approche certaine de la mort. Maintenant, il me semblait que quelque chose s'était retourné, que le point de vue s'était changé brusquement. Il n'y avait eu, d'un état d'esprit à l'autre, aucune transition sensible. J'étais immédiatement redevenu le moi de chaque jour, l'ordinaire et convenable citoyen. La lande silencieuse, le motif de ma fuite, les flammes qui s'élevaient étaient comme un rêve. Je me demandais si toutes ces choses étaient vraiment arrivées. Je n'y pouvais croire. Je me levai et gravis d'un pas mal assuré la pente raide du pont. Mon esprit était envahi par une morne stupéfaction. Mes muscles et mes nerfs semblaient privés de toute force. Je devais tituber comme un homme ivre. Une tête apparut au-dessus du parapet et un ouvrier portant un panier s'avança. Auprès de lui courait un petit garçon. En passant près de moi, il me souhaita le bonsoir. J'eus l'intention de lui causer sans le faire. Je répondis à son salut par un vague marmottement et traversai le pont. Sur le viaduc de Maybury, un train, tumulte mouvant de fumée blanche aux reflets de flammes, continuait son vaste élan vers le sud, longue chenille de fenêtres brillantes. Fracas, tapage, tintamarre, et il était déjà loin. Un groupe indistinct de gens causait près d'une barrière de la jolie avenue des chalets qu'on appelait Oriental Terrace. Tout cela était si réel et si familier. Et ce que je laissais derrière moi était si affolant, si fantastique. De telles choses, me disais-je, étaient impossibles. Peut-être suis-je un homme d'humeur exceptionnelle. Je ne sais jusqu'à quel point mes expériences sont celles du commun des mortels. Parfois, je souffre d'une forte étrange sensation de détachement de moi-même et du monde qui m'entoure. Il me semble observer tout cela de l'extérieur, de quelque endroit inconcevablement éloigné, hors du temps, hors de l'espace, hors de la vie et de la tragédie de toute chose. Ce sentiment me possédait fortement cette nuit-là. C'était un autre aspect de mon rêve. Mais mon inquiétude provenait de l'absurdité déconcertante de sécurité et de la mort rapide qui voltigeait là-bas, à peine à 3 kilomètres. Il me vint des bruits de travaux à l'usine à gaz, et les lampes électriques étaient toutes allumées. Je m'arrêtai devant le groupe de gens. « Quelle nouvelle de la lande ? » demandai-je. Il y avait contre la barrière deux hommes et une femme. « Quoi ? » dit un homme en se retournant. « Quelle nouvelle de la lande ? » répétai-je. « Est-ce que vous n'en revenez pas ? » demandèrent les hommes. « On dirait que tous ceux qui y vont en reviennent fous, » dit la femme en se penchant par-dessus la barrière. « qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ? Vous ne savez donc rien des hommes de Mars, demandai-je ? Des créatures tombées de la planète Mars ? Oh si, bien assez, merci, dit la femme, et ils éclatèrent de rire tous les trois. J'étais ridicule et vexé. Sans y réussir, j'essayais de leur raconter ce que j'avais vu. Ils rirent de plus belle à mes phrases sans suite. Vous en saurez bientôt davantage, leur dis-je, en me remettant en route. J'avais l'air si hagard qu'en m'apercevant du seuil, ma femme tressaillit. J'entrai dans la salle à manger. Je m'assis, bus un verre de vin, et aussitôt que je pus suffisamment rassembler mes esprits, je lui racontai les événements dont j'avais été témoin. Le dîner, un dîner froid, était déjà servi et resta sur la table sans que nous y touchions pendant que je narrais mon histoire. « Il y a une chose rassurante, dis-je, pour pallier les craintes que j'avais fait naître. Ce sont les créatures les plus maladroites que j'ai jamais vues grouiller. Elles peuvent s'agiter dans le trou et tuer les gens qui s'approcheront. Pourtant, elles ne pourront jamais sortir de là. Mais quelles horribles choses !»« Calme-toi, mon ami, dit ma femme, en fronçant les sourcils et en posant sa main sur la mienne. « Ce pauvre Ogilvy, dis-je, pensait qu'il est resté mort là-bas. Ma femme, du moins, ne trouva pas mon récit incroyable. Quand je vis combien sa figure était mortellement pâle, je me tus brusquement. « Ils peuvent venir ici, » répétait-elle sans cesse. J'insistai pour qu'elle bût un verre de vin, et j'essayai de la rassurer. « Mais ils peuvent à peine remuer, » dis-je. Je lui redonnai, ainsi qu'à moi-même, un peu de courage, en lui répétant tout ce qu'Ogilvy m'avait dit de l'impossibilité pour les Martiens de s'établir sur la Terre. En particulier, j'insistais sur la difficulté gravitationnelle. À la surface de la Terre, la pesanteur est trois fois ce qu'elle est à la surface de Mars. Donc, un Martien, quand même sa force musculaire resterait la même, pèserait ici trois fois plus que sur Mars, et par conséquent, son corps lui serait comme une enveloppe de plomb. Ce fut là réellement l'opinion générale. Le lendemain matin, le Times et le Daily Telegraph, entre autres, attachèrent une grande importance à ce point, sans plus que moi prendre garde à deux influences modificatrices pourtant évidentes. L'atmosphère de la Terre, nous le savons maintenant, contient beaucoup plus d'oxygène, ou beaucoup moins d'argon, peu importe la façon dont on l'explique, que celle de Mars. L'influence fortifiante de l'oxygène sur les Martiens fit indiscutablement beaucoup pour contrebalancer l'accroissement du poids de leur corps. En second lieu, nous ignorions tous ce fait que la puissance mécanique que possédaient les Martiens était parfaitement capable, au besoin, de compenser la diminution d'activité musculaire. Mais je ne réfléchis pas à ces choses alors. Aussi, mon raisonnement concluait-il entièrement contre les chances des envahisseurs. Le vin et la nourriture, la confiance de l'appétit satisfait et la nécessité de rassurer ma femme me rendirent, par degrés insensibles, mon courage et me firent croire à ma sécurité. « Ils ont fait là une chose stupide, assurai-je, le verre à la main. Ils sont dangereux, parce que sans aucun doute la peur les affole. Peut-être ne s'attendaient-ils pas à trouver des êtres vivants, et certainement pas des êtres intelligents. Si les choses en viennent au pire, un obus dans le trou et nous en serons débarrassés. » L'intense surexcitation des événements avait sans aucun doute laissé mes facultés perceptives en état d'hérétisme. Maintenant encore, je me rappelle avec une extraordinaire vivacité ce dîner. La figure douce et anxieuse de ma femme tournée vers moi, sous l'abat-jour rose, la nappe blanche avec l'argenterie et la verrerie, car en ces jours-là, même les écrivains philosophiques se permettaient maint petit luxe, le vin pourpre dans mon verre, tous ces détails sont photographiquement distincts. Au dessert, je m'attardais, combinant le goût des noix à une cigarette, regrettant l'imprudence d'Ogilvy et déplorant la peu clairvoyante pusillanimité des Martiens. Ainsi, quelque redoutable dodo de l'île Maurice aurait pu, de son nid, envisager de cette façon les circonstances, et, discutant l'arrivée d'un navire en quête de nourriture animale, aurait dit « Nous les mettrons à mort à coups de bec, demain, ma chère. » Sans le savoir, c'était le dernier dîner civilisé que je devais faire pendant d'étranges et terribles jours.